Hello Daniel, salut à toute l'équipe de la Bastille Issue. Alors, je vous souhaite tous de bonnes fêtes à notre émission préférée. Et en fait, ça serait bien. J'ai lu un article là, dans le Libé assez sympa, quoi, avec le leader des SDF volontaires qui s'appelle Augustin. Et en fait, il s'oblige à vivre dehors avec eux depuis quelques semaines. Là. Ça serait pas mal d'aller voir là-bas si on y est, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, à plus et salut aussi à tous les AMG. À bientôt, ciao.
J'ai un service à vous demander, à vous tous. J'aurais voulu savoir si quelqu'un aurait un chiffre assez précis du nombre de SDF en France, parce que j'ai entendu qu'il y a une représentante du gouvernement, là, de l'UMP, qui a indiqué que l'État dépensait 3 millions d'euros par jour pour sa politique de soutien aux SDF. Donc moi, d'après les chiffres que j'ai pu avoir, j'avais des chiffres aux alentours de 30 000 SDF. Je ne sais pas s'ils sont valables ou quoi. Toujours est-il que si on prend 30 000 SDF et qu'on leur consacre tous les jours 3 000 euros, c'est-à-dire qu'on donne 100 euros pour chaque SDF. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre les SDF, mettre les 100 euros dans une boîte et leur filer 3 000 euros par mois et on leur enverrait s'ils n'arriveraient pas à faire en sorte de trouver un toit. C'est quand même extraordinaire. On est en train d'après, si les chiffres sont bons, on dépenserait donc 3 000 euros par mois pour maintenir des gens dehors, en fait. Bon, ben, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Allez, gros bisous, portez-vous bien, tu revives.
Voilà, j'appelle parce que je suis en train d'écouter ton message que tu fais passer là-bas à Dubaï. Je trouve ça scandaleux, tous ces pays de richesse où l'on dépense autant de mètres, de millions de mètres cubes pour faire un oasis, un paradis, alors qu'il y a tant de pays qui manquent d'eau. Pourquoi que ces riches promoteurs et milliardaires ne font pas donc un oasis au pôle Nord, pourquoi pas, ou alors dans le désert, ça serait beaucoup plus intéressant, et puis ça apporterait à manger et du travail. On laisse crever les gens, mais j'ai l'impression que on est revenu au temps des pharaons, hein. À l'époque, c'était les pyramides qu'il fallait construire pour tous ces grands rois, mais maintenant, c'est tous ces milliardaires de Dubaï qui font exactement le même principe. On n'a pas, la vie n'a pas changé, hein. Alors que cet argent pourrait être dispatché dans le monde entier et les gens seraient beaucoup plus heureux. Mais non, faut pas. Il faut pas. Faut qu'il y en ait qui soient très riches, qui continuent de s'enrichir. Fait chier tous ces gens. Excusez-moi, je n'ai pas par habitude d'être vulgaire, mais abat la richesse.
Bonjour, c'est la première fois que je tombe sur votre émission. J'ai pleuré parce que ça m'a fait rappeler les atrocités que j'ai vues en Arabie Saoudite parce que j'ai vécu là-bas 8 mois. Mon ex-mari, il a beaucoup, beaucoup d'argent. Mais bon, ça n'empêche que moi, ce que je voyais, c'était ces gens-là, pauvres, dans la misère, et qui faisaient plus de 50 degrés, et ils faisaient construire des châteaux pour ces gens-là fortunés. Et ça me révoltait. Et que c'était insensé de voir des gens dans la misère, dans la souffrance. Et je ne comprends toujours pas comment ces gens-là qui prétendent être des musulmans, c'est de l'esclavage, comme ce qui, parce que c'est permis l'esclavage. Ces gens-là sont des esclaves. Et ça ne, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai eu une larme. Et moi, j'ai quitté l'Arabie Saoudite parce que j'étais cloîtrée à la maison. Mon ex est un médecin très fortuné. Il a fait des études ici en France. Il gagne beaucoup d'argent et il a tous les avantages. Toutes les portes sont ouvertes pour lui. Mais j'ai dû m'enfuir avec mes filles. Parce que là-bas, pour nous, moi et mes filles, c'était invivable. Au revoir.
Oui, bonjour, gourou Mermet ou seigneur Mermet. Comment dois-je vous, vous appeler? Car c'est ce que vous êtes, non? Le fait d'avoir changé d'horaire fait que je vous entends, car j'avais arrêté de vous entendre. Les messages qui vous sont adressés sont des messages d'adeptes à votre religion de la haine. Vous distillez la haine des gens riches, mais ils bossent 12 à 13 heures par jour, figurez-vous. Vous distillez la haine contre certains pays, contre certaines religions. Mais qui êtes-vous pour vous permettre ça? Un vieux beau, habillé de noir, cheveux blancs, dragueur de jeunes filles peut-être. Un type qui se fait payer des voyages aux frais des Français que vous haïssez, de préférence partir à Dubaï en plein hiver, Ainsi, vous échappez au froid et aux vrais problèmes qui se passent en France. Vous me dégoûtez, gourou Mermet. Vous profitez du système et vous crachez dessus. Vous êtes dégueulasse. Attention à ce que vous dites, ça pourrait se retourner contre vous. Voilà, je m'appelle Sylvie et j'habite à Montpellier. Au revoir, gourou Mermet.
Oh, mais en vérité, c'est pire que ça, hein. La Basse-Usis et la secte du temple solaire avec des petites jeunes filles manipulées partout, des esclaves dans tous les coins, c'est le petit personnel. Et puis moi, je suis le pharaon, ça c'est vrai, hein. Et tout ça avec l'argent de nos impôts. C'est une véritable horreur, c'est un scandale qu'il fallait dénoncer. Alors, autre chose, concernant le chiffre des SDF, il semblerait que notre ami Eric, notre ami auditeur, se trompe un petit peu. Les chiffres publiés par le quotidien Libération ce matin indiquent qu'il y aurait 100 000 SDF en France, dont 10 000 à Paris, et ce chiffre de 100 000 au total en France serait en augmentation, puisque selon l'INSEE, le dernier chiffre publié en 2004 serait de 84 000. Voilà, ça c'est un grand article dans Libération sur l'opération menée par Don Quichotte à Paris. Nous, on change complètement de décor, on va chez les riches, chez les très très riches aujourd'hui, à Dubaï, l'ivresse de l'argent, du rêve. Et surtout, Dubaï, c'est l'idéologie, enfin c'est le rêve ultralibéral, l'Eldorado ultralibéral. En débutant, on se demande qu'est-ce qu'ils font de leur argent, tous ces gens qui en veulent tant, qui en empilent, qui en gagnent. Eh ben voilà, Dubaï, c'est là que ça se passe, c'est là que ça va, et c'est là que l'idéologie, le rêve ultra-libéral est enfin réalisé, et donc on vous y remène plutôt, puisque c'est une nouvelle diffusion de cette série de reportages. Auparavant, quelques messages encore, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, quelques messages à teneur politique.
Catherine, eh bien écoute, collectif Manosque, je t'ai déjà appelé plusieurs fois pour te tenir au courant, et tenir au courant peut-être aussi les camarades qui étaient engagés. Donc effectivement, j'appelle aujourd'hui avec une grande déception, comme Clémentine Autain, mais aussi comme des tas de camarades citoyens comme moi, qui se sont engagés dans ces collectifs avec beaucoup d'espoir, parce qu'effectivement, il y a un besoin à la gauche du Parti Socialiste. Il n'y a rien, donc je cultive pas effectivement la vengeance ni la culpabilité, mais j'ai un peu les boules contre les communistes aujourd'hui, parce que on a travaillé ensemble sur ces collectifs, mais de voir que effectivement ce n'est qu'une question d'ego, parce que nous, les gens qui avons travaillé sur les collectifs ensemble, je veux dire, d'une façon très citoyenne, avec des projets vraiment, avec des stratégies, etc. Voilà, c'est dommage, parce que moi aujourd'hui, je sais pas pour qui je vais voter, et je pense que je suis pas la seule. Donc, à méditer, parce que toujours pareil, la base, ça veut dire les gens du peuple font, travaillent, s'entendent, collaborent, et là-haut, quand il y a une histoire d'ego, parce que c'est pas autre chose, ça merde. Et ça merde vraiment dans toute sa splendeur. Alors, c'est vrai, merde. Aujourd'hui, déjà, moi qui étais socialiste, Fabius, on a Ségolène Royal, et alors maintenant les collectifs qui se cassent la gueule. Bon, eh bien, voilà. Je crois que c'est quand même assez intéressant. Eh bien, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Salut Daniel.
Bonjour, je voudrais discuter avec ceux qui ont laissé le 22 décembre plusieurs messages, se déclarant surpris et en colère de l'élection de Marie-Georges Buffet pour porter les couleurs des anti-libéraux. Ils ont été très très durs, ces idiots de communistes, ces imbéciles qui sont dans les collectifs anti-libéraux, ont élu Marie-Georges Buffet. Alors, il se trouve que je suis un de ces imbéciles, et je crois savoir qu'on a toujours vu les communistes partager, avec d'autres bien sûr, les valeurs antilibérales. Et je crois qu'il faut se faire une raison dans cette lutte de toujours entre le capital et le travail, pour savoir si on rémunère plus le capital ou le travail, et on sait les choix qui ont été faits depuis pas mal de temps. Il n'y aura jamais trop de monde pour défendre une politique sociale. Il n'y a pas à regarder Selon moi, si celui-ci est communiste, si celui-là ne l'est pas, aujourd'hui, il faut savoir si on est capable de créer une dynamique anticapitaliste qui devienne réellement majoritaire à gauche, pour entraîner y compris la gauche influencée par le Parti Socialiste vers des choix libéraux. Et on sait qu'il y a du travail. On le voit, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de volonté politique, c'est une question de programme. Ce programme, on l'a, et Marie-Georges Buffet propose à tous ceux qui ont porté le nom au traité européen de porter ce programme. Merci à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, continuez d'ouvrir les consciences. C'est non seulement modeste et génial, c'est surtout nécessaire et indispensable. Vive le combat antilibéral.
Et là, je vous appelle juste pour vous signaler que dans le sud-ouest d'aujourd'hui, mardi 26 décembre 2006, il y a une interview. Bon, ça, vous le savez déjà parce que France Inter en a parlé. Mais il faut la lire. Une interview de José Bové. Ça s'appelle Les vérités de José Bové. Les vérités de José Bové. Et je retiens trois phrases pour vous. Voilà. À la question « Vous ne regrettez rien ?» à propos, évidemment, de la tournure qu'a prise le rassemblement antilibéral. Je note cette phrase « L'émiettement est une maladie infantile et incurable de la gauche française. » Ensuite, deuxième phrase à propos de Nicolas Hulot. « On ne peut pas défendre l'environnement sans remettre en cause l'ordre économique de la planète. » Ça, c'est la phrase qui m'a paru la plus forte de l'interview. Ça répète. On ne peut pas défendre l'environnement sans remettre en cause l'ordre économique de la planète. Et puis, à propos de l'utilité de son combat, un peu plus loin, José Bové dit « On affirmait que les paysans étaient condamnés à se taire et à mourir, mais ils se rebiffent. » C'est pas mal aussi. Voilà. Bon, autrement, il a posé pour les photos, tout... Mais bon, c'est bien quoi, c'est bien. Voilà.
Oui, bonjour Daniel, je te conseille de regarder la télévision, là, dimanche, à midi, là. Tu vois, il y a les petits-enfants de la Croix-de-Bois qui chantent. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, tu vois, ils vont te plaire, les petits garçons, ils sont mignons, il y en a plein, plein, plein. Oh, qu'ils chantent bien.
Dubaï, c'est Dubaï Inc. Dubaï Incorporated.
On a eu récemment des clients étrangers qui nous ont demandé une bouillabaisse. Donc on a importé en moins de 24 heures tous les ingrédients et préparé pour eux ce plat.
Donc si je veux un cassoulet, c'est possible en 24 heures.
Tout à fait. Tout est disponible, j'ai envie de dire, toute l'année à Dubaï.
Ils acceptent et accueillent tout le monde. Ici, ils viennent, ils nous disent, venez partager notre succès. C'est ce qui fait le succès de Dubaï.
Nous travaillons toute la journée et puis quand nous retournons le soir, on n'a même pas d'eau pour se laver.
Et vous avez à manger quand même.
Ce qu'on nous donne, même les chiens ne vont pas le manger. Même les chiens vont refuser.
Vous avez après une saison qui est aussi très agréable, qui est celle de maintenant, qui est mai, juin, juillet, août. Peut-être un peu chaude,
oui.
Mais les piscines sont rafraîchies. Hein. On garde les piscines.
Vous mettez des glaçons.
Presque,
des nageurs.
Presque, presque.
Et alors, quand est-ce que vous êtes rendu compte que vous vous étiez fait piéger?
Regardez l'état, le lamentable état des Bangladeshis là-bas. Dès qu'on arrive, on comprend. Si jamais je rentre au Pakistan, je vais me suicider, mais je ne reviendrai plus jamais ici. Je ne remettrai plus le pied ici.
Dubaï, Dubaï Inc. Dubaï Incorporated. Next generation destination.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, Dubaï, Eldorado, libéral.
Flight number 2, arriving from New York.
Dubaï bomb, Mr. Abba.
Dubai Palm, la construction, c'est par là.
Ah, le Palm, le fameux Palm, d'accord.
Ils ont fait d'énormes rampes d'autoroute, là, pour pouvoir y aller.
C'est colossal, pharaonique. À peu près par là, un petit peu plus loin, au large, on est en train de construire un archipel d'îles artificielles. Et les îles dessinent le monde entier. Une île, c'est une partie du Portugal, de l'Espagne, de l'Afrique, etc. Et là-bas, c'est Burj Al Arab. Cette construction en forme de voile de bateau qui fait 321 mètres de haut et qui est le symbole de la ville pour l'instant, avant d'être détrôné par d'autres exploits. Ce qu'il faut, c'est revenir dans 5 ans, et puis dans 10 ans, et dans 15 ans, dans 20 ans. Tu sais, il n'y a pas de trottoir. Rien n'est prévu si tu veux rentrer chez toi à pied, hein, ou en vélo. Dans 20 ans, ils se mettront en vélo quand ils sont tous bien gros, bien gras. Comment résumer Dubaï? Tomber dans le cliché et comparer l'Émirat avec un conte de mille et une nuits? Non! À Dubaï, on ne rêve pas, on réalise son rêve, même le plus fou. Bienvenue à Dubaï. À Dubaï, la population a plus que doublé en 10 ans. Il y a 85% d'étrangers et désormais hérissé de tours et de grues, voilà Dubaï. Où que l'on se tourne dans ce pays de tous les excès, on se cogne à des projets ambitionnant d'être les plus grands, les plus beaux ou les plus chers du monde. D'ici à 2008 et 2011, cet état lilliputien de 1,4 million habitants verra apparaître la plus grande tour du monde, le plus grand aéroport mondial destiné à accueillir non plus 22 millions, mais 120 millions de passagers, le plus grand centre commercial de la planète, le Dubai Mall, une reconstitution des 7 merveilles du monde, plus grande que nature, des centres d'attractions en tout genre qui viendront s'ajouter à la station de ski. 400 mètres de pistes rafraîchies quotidiennement par 6000 tonnes de neige artificielle, de quoi ravir tous les sens, de l'homo modernus en quête de sensations fortes et de soleil. La recette magique fonctionne déjà. La plupart des hôtels affichent complet. Les capitaux russes et arabes affluent grâce à la défiscalisation. Le PIB a plus que triplé en 10 ans. À peine commercialisé, les énormes projets Dubai Waterfront, Discovery Gardens, The World et Palm, ces îles artificielles destinées à devenir des paradis flottants version occidentale, se sont arrachés à prix d'or. Il est vrai que les expatriés privés de tout droit d'installation officielle ont la possibilité d'acquérir un bien immobilier. À Dubaï, les femmes vivent sans entrave ou presque. Les seuls costumes traditionnels sont ceux des riches dubaïotes qui évoluent visage découvert, abaya noir, joliment brodé, arborant fièrement sacs et escarpins griffés. Alors, la question se pose, faut-il aller à Dubaï? Oui, si l'on aime le shopping et bien d'autres choses. Alors, bienvenue à Dubaï. Et il y a quand même pas mal d'autres choses. C'est là-bas si j'y suis, c'est sur France Inter.
Got the beats to make you bang. Yeah, we got God and we got you. Every day thinking about how we get through. Everything I own is on IOU. But I'm here bringing y'all something new. You don't like the people, then they like you. Then they're gonna set it off with the big boom. Son in the battle, it's a son and daughter too. What you wanna talk about? Who done who? What you wanna talk about? Slang time, that's that M-I-A time. I
Est-ce que vous pouvez nous présenter ça, Abdelaziz?
Alors, ça, c'est un complexe de ski. Uh-huh. Un complexe dans le cœur de Dubaïland. C'est un dôme, c'est le plus grand dôme au monde, avec 220 mètres carrés de diamètre et 80 mètres de haut. À l'intérieur du dôme, ça sera l'hiver, 12 mois sur 12. Alors, on aura tous les sports d'hiver, du ski, du snowboard, du bobsleigh, il y aura des pingouins.
Des vrais
pingouins. Il y aura un parc de pingouins. Il y aura un hôtel 5 étoiles à l'intérieur. Des appartements à vendre aussi.
Autour, là.
Autour. Vous pouvez acheter un studio, une chambre, deux, trois chambres. Et de votre appartement, vous pouvez voir les gens skier, la neige tomber. Et ça, au cœur de Dubaïland.
Et ça rentre dans l'ensemble de Dubaïland.
Ça, c'est une partie de Dubaïland. D'accord. Dubaïland, c'est 44 projets touristiques qui seront prêts en 2010.
Et est-ce que c'est commencé ou est-ce que c'est un projet?
Non, c'est commencé. Et chaque projet, il est fait par une compagnie indépendante. Et le tout fera Dubaïland.
Et celui-là
celui-là, le Snowdome, ça c'est OK, ça va être prêt en décembre 2008. Il va être ouvert.
Est-ce que les appartements sont déjà vendus, sont en vente?
Oui, ils sont en vente déjà. On a déjà vendu 30%.
30% des appartements sont déjà vendus. Oui. OK, combien ça coûte un appartement?
Une chambre et salon. Ça fera dans les 700 000 dirhams, ça veut dire dans les 120 000 euros. Et ça, ça va être unique au monde. Hein. Ouais. Ça va être connu n'importe où dans le monde. C'est de ski au milieu de Dubaï. Pour un projet unique comme celui-là.
Quelle est la longueur maximum de la piste?
La piste est une piste rotative. C'est-à-dire que vous pouvez skier tant que vous voulez. Ça va tourner.
Je comprends pas.
Là, vous êtes en bas un moment. Ouais. Après, hop, c'est ça. Vous êtes en haut.
Oui, je descends et ça remonte.
Et ça tourne.
Il n'y aura pas les remontées mécaniques.
Si, il y aura des remontées mécaniques, parce qu'il y aura des restaurants et des cafés en haut des montagnes.
Quel sera le menu dans les restaurants? Il y aura de la fondue, il y aura...
Bien sûr, le menu, ça sera des cuisines du monde entier.
Les pingouins.
Abdelaziz, vous croyez vraiment que ça va exister, ça, ou vous êtes en train de plaisanter?
On a déjà commencé les travaux.
C'est vrai?
Oui, et c'est un projet qui va coûter 1 milliard de dollars US. On rigole pas, c'est...
On rigole pas, non?
Ah oui. On rigole pas avec 1 milliard de dollars.
Welcome to the city of Arabia. A grand, glorious, and groundbreaking 20 million square foot development lying at the heart of Dubai land and serving as a majestic gateway to the new world.
La plus grosse, la plus grande, la plus givrée, imaginez à partir pour Dubaï pour vous taper une fondue. C'est pas mal quand même, hein? Une fondue à Dubaï. Eh bien, ça va être possible. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui vont être possibles, et qui sont déjà possibles à Dubaï. Mais n'oubliez pas la phrase que vous venez d'entendre. On ne rigole pas avec 1 milliard de dollars, même si c'est un petit grain de sable. 1 milliard de dollars à Dubaï. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Dubaï. Et beaucoup, 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 beaucoup d'argent qui passe et beaucoup, 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 beaucoup d'argent qui reste. Voilà, c'est un investissement pharaonique. On l'a dit et redit. Et cette énorme façade, ce formidable miroir aux alouettes, c'est une organisation, on l'a entendu. Ce fin connaisseur, ce français qui dit Dubai Inc., effectivement, c'est une entreprise, c'est géré comme une entreprise avec la loi de l'entreprise, c'est-à-dire la loi du profit et le plus grand profit possible. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Singapour, ça ressemble à Zurich, c'est très organisé, très propre, très riche, très clinquant, très glacé. Il y a un son permanent à Dubaï, c'est le son de la climatisation. Sauf, évidemment, si vous faites partie des 80% de la population. Non, pas vraiment, de ceux qui sont là, qui travaillent là et qui travaillent en extérieur. Et eux, c'est pas le bruit de la climatisation qu'ils entendent, c'est le bruit des marteaux piqueurs ou le bruit des collègues, des copains qui tombent évanouis à cause de la chaleur. Alors c'est entre ça et cela, ceci et cela que nous baladons aujourd'hui dans Dubaï. Là, on est à l'ATM, l'Arabian Travel Market. On a essayé de voir avec Guive Anctil et notre ami Padma de New Delhi qu'est-ce qu'on pourrait bien s'acheter. Nous, ça nous intéresse aussi un petit peu. On a, c'est pas qu'on a des sous, mais enfin, on voudrait bien savoir après tout. Donc, on a, voilà pourquoi on était là. Puis, un peu pour savoir quels étaient les projets de ces gens-là. Là, ce qu'on comprend avec Dubai Land, c'est que c'est fini pour Euro Disney, pour Disney World, tout ce que vous voulez. Ça, c'est fini. Ça va être 10 fois, 50 fois plus étourdissant, à commencer par cette piste de ski. Vous n'avez pas besoin de remonte-pente, puisque quand vous êtes en bas, vous avez compris, hop, la piste remonte. Beaucoup d'autres projets assez cinglés, mais sachez que tous sont en cours de réalisation, qu'ils se réaliseront. On ira voir ce qu'il y a derrière, le côté financier, les tireurs de ficelles internationaux qui sont bien sûr autour de cette charmante petite histoire. Et puis, on va aller voir ceux qui travaillent, ceux qui font Dubaï.
Est-ce que c'est le projet le plus fou, celui-là ?
Selon moi, oui. Il y a d'autres projets, comme par exemple, vous voyez, c'est la plus grande tour au monde.
Ouais.
C'est Burj Dubai, plus de 800 mètres.
Ouais.
Quand vous voyez Palm, les îles du Palm, qui est là. Au début, quand les gens parlaient du Palm, personne n'y croyait. Les îles.
C'est le robot qui
passe.
C'est le robot qui passe.
Ouais. Les îles. Personne ne croyait au début. Et maintenant, elle est là. Burj Al Arab aussi, Burj Al Arab, vous connaissez. C'est le seul 7 étoiles au monde.
7 étoiles au monde.
C'est le seul 7 étoiles au monde. Personne n'y croyait, et bien il est là. Et à Burj Al Arab aussi, il y a des restaurants qui sont sous le niveau de la mer.
On va manger sous la mer.
Vous avez les poissons
autour. Des requins et des dauphins.
Des requins, je ne sais pas, mais
des dauphins. Poissons.
Les requins, ils sont ailleurs ici. Ils ne sont pas dans la mer.
Ils sont où? Ils sont dans le business.
Voilà, ils sont dans le business. Des gros requins blancs. Il y a des investisseurs qui mettent beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts dans ces...
Des efforts, ils mettent de l'argent, c'est pas des efforts.
Et tout ça, c'est la vision de Cheikh Mohammed.
Uh-huh.
C'est le prince de Dubaï.
Alors qui va construire tout ça? Il va falloir beaucoup d'ouvriers, beaucoup de...
Ici à Dubaï, les chantiers, on travaille 24 heures sur 24.
Mais j'ai entendu qu'il y avait des manifestations récemment, il paraît que les conditions de travail sont pas terribles.
Ça dépend des sociétés. Ici, c'est interdit de travailler de midi à 4 heures.
Pendant 2 mois d'été?
C'est interdit.
Depuis 2 ans.
Si les compagnies font travailler, les employés, pendant ce temps-là, ils auront des amendes. Mais entre nous, il y a des compagnies qui font travailler entre midi et 4 heures, ils payent l'amende. Ils préfèrent payer l'amende et faire travailler les gens pour avancer le projet.
C'est le
capitalisme. C'est Dubaï.
C'est le capitalisme ou c'est Dubaï?
C'est pas comme en France.
Non.
Il n'y a pas de syndicat,
il n'y a pas de droit du travail.
Voilà, pas de droit à la grève.
Pas de taxes, pas d'impôts.
Pour l'instant.
Mais vous croyez que ça va venir, vous, mademoiselle?
Oui, parce qu'à force qu'on voit les Indiens, les Pakistanais exploités comme ils sont, mais on va bien un jour, on va mettre un stop. Hein.
Ça vous choque?
Oui et non, parce que c'est triste à dire, mais dans leur pays, c'est pire.
Voilà.
On arrive à Abu Dhabi, mais c'est invraisemblable ce qu'on voit. Là, vraiment, c'est invraisemblable. Cette file de camions, il y a 2 km de camions. On vient de franchir un parking de 2 km d'énormes camions de construction, d'énormes camions de chantier à 8 ou 10 roues, qui sont des bennes en fait, oranges, avec des avants blancs comme ça, et qui sont les camions dans lesquels travaillent ces gars-là, qui sont des travailleurs, tous en bleu d'ailleurs, et c'est l'entreprise Al Jabbar. Et on nous a dit que c'était une des pires entreprises du coin des Émirats. En tous les cas, ici à Abu Dhabi, on va essayer d'entrer. Je ne sais pas du tout comment on va être reçu, comment on va pouvoir entrer dans cette entreprise. Mais enfin, on va essayer. On a essayé, mais ça n'a pas été vraiment... un succès. Ça n'a pas été un succès du tout. On a essayé de pourparler avec les gardiens de ce camp de travail, enfin disons foyer, parce que ça s'appelle labor camp, mais on va dire foyer, de quelques milliers de travailleurs qui sont là-dedans, mais on n'a pas pu entrer, on n'a pas pu visiter, on nous a pas autorisé. Et c'est très difficile, on n'est pas bienvenus du tout. Et là, devant l'entrée donc de ce camp de travail, foyer encore une fois, eh bien voilà des des jeunes travailleurs qui viennent du Bangladesh, qui ont l'air tout à fait crevés. Ils ont des beaux t-shirts tout propres et des belles casquettes toutes propres. Et ils sont assez hébétés et inquiets.
Alors ça, c'est que des jeunes gens, enfin plus ou moins jeunes, qui viennent juste d'arriver de Dhaka au Bangladesh. Ils ont fait 2 jours de voyage et ils sont un peu fatigués parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours, disent-ils. Et on vient de leur donner des casquettes, des belles casquettes blanches avec écrit Al Jabar Transport Général, Contracting Establishment. Et puis, ils ont les t-shirts de Al Jabar. Morning Sun Enterprise. Combien vous êtes?
Nous sommes 62.
Les gars, on est sur le Mumbai. On est sur le Mumbai.
Nous sommes arrivés ce matin et ils nous ont fait faire des examens médicaux. Ils disent qu'on n'aura pas de travail.
Ah, ils vous disent que vous n'aurez pas de travail?
Parce que 2-4 jours,
ils disent qu'il faut attendre encore 3-4 jours.
Là, là, vous allez dormir, ils vont vous faire dormir?
Non, pour le moment, on ne va pas trouver.
Est-ce que vous avez mangé?
Non.
Vous n'avez pas mangé? Et vous avez bu?
Du robinet, on a bu de l'eau, un peu d'eau. Nous avons beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés.
Est-ce que vous avez donné de l'argent là-bas pour partir à Dhaka? Est-ce qu'on vous a fait donner de l'argent pour partir?
2 lakhs.
2 lakhs, c'est beaucoup d'argent?
J'ai vendu ma propriété, mes terres, les biens qu'on avait.
Vous avez emprunté de l'argent pour avoir le visa?
Pour le visa.
Qu'est-ce que vous espériez? Vous espériez trouver du travail tout de suite?
C'est ce qu'on nous avait dit dans notre pays.
Electrician interview, ok. 600 dirhams.
Pour l'électricien, ils ont promis 600 dirhams par mois.
Pour l'électricien, toi, tu es électricien?
Yes.
600 dirhams. Et les autres?
Carpenter.
Combien?
600 dirhams, on nous a dit.
Alors,
maintenant, ils disent 500. Quand 500. On est parti, on avait dit 600. 600.
Mais ils vous ont quand même donné des t-shirts et des casquettes.
Ah, mais yes.
Vous êtes quand même content d'avoir les t-shirts et la casquette?
J'étais content, mais maintenant j'ai faim, donc je ne suis plus content. Non, on veut travailler, comme ça on aura de l'argent.
Ouais.
C'est tout ce qu'on veut.
Voilà.
Il y a la sécurité qui arrive, qui leur demande de dégager.
Voilà, ils viennent de Dhaka, au Bangladesh. Et je parlais de ces émeutes à Dhaka, au Bangladesh, les femmes qui ont fait ces émeutes contre, mis le feu à des ateliers de confection, ben ça peut tout à fait être leurs frères ou leurs compagnons qui sont là et qui viennent à Dubaï pour travailler. Les salaires en dirhams, ça donne à peu près entre 100 et 125 euros mensuels. Voilà ce qu'on leur a promis, c'est pas du tout sûr qu'ils les aient. Et les sommes qu'indiquent ces Bangladais, les sommes qu'ils ont données pour obtenir ce visa, entre guillemets, évidemment que c'est un vol de la part des passeurs, quoi, hein. C'est une somme de 2200 euros, ça donne une idée, quoi. Ils vont gagner peut-être 100 à 130, ou au mieux 150 euros par mois, et ils ont déjà d'abord à rembourser ces 2200 euros, c'est dire s'ils ne sont pas sortis de l'auberge et s'ils ont ce sentiment en arrivant d'être prisonniers. Alors c'est une figure tout à fait classique, c'est une technique tout à fait classique d'asservissement. Évidemment que on a entendu cette phrase « dans leur pays c'est pire ». Oh là là, oui d'accord, mais dans leur pays c'est pire. Combien de fois on a entendu cette phrase et combien de fois l'avons-nous pensée? cette phrase pour écarter les mouches malodorantes de la mauvaise conscience devant la misère du monde. Il se pourrait que le talon d'Achille de Dubaï, cette paillette, ce miroir aux alouettes, soit quand même justement son image, et que les conditions de travail de ces gens soient... Ça la fout mal. Alors, on se méfie de nous, on veut pas trop nous parler, il y a des surveillants qui sont pas loin, mais il y a quand même deux travailleurs qui sont là, qui nous font signe, qui veulent nous parler, et on grimpe dans la voiture.
Nous avons laissé nos femmes, nos enfants derrière au Pakistan. Ici, les conditions sont horribles. On n'est pas payé pendant des mois, parfois. Et nous sommes coincés ici. Maintenant, nous ne pouvons même pas rentrer chez nous, parce que nous n'avons pas assez d'argent pour rentrer.
Actuellement, vous avez du travail ou pas ?
Non.
Mais alors, vous n'êtes pas payé en ce moment ?
Non. Non, si on ne travaille pas, comment est-ce qu'on va gagner ?
Donc vous attendez qu'on vous appelle pour travailler ?
Non, nous attendons pour rentrer au Pakistan. Parce que nous en avons marre, nous voulons rentrer.
The Mall of Arabia, a pharaonic-themed entertainment and leisure capital. Its striking facade beckons you to a global shopping extravaganza. With over 1,000 retail outlets, housing the best of international fashion brands, more than 10,000 parking spaces, a state-of-the-art stage for theatrical performances, a 15-screen cinema, a 5-star hotel, and a world-class spa, is not just a mall, but a unique lifestyle experience.
This is actually only the Mall of Arabia, which is going to be the biggest mall in the world.
Ça, c'est juste le Mall d'Arabie, c'est-à-dire le centre commercial qui va être le plus grand centre commercial au monde.
It's at about 400,000 square meters.
Ça fait à peu près 400 000 mètres carrés de commerce.
Okay, and you're looking at a design that represents ancient Middle Eastern countries like Petra, Jordan, Egypt.
Et là, l'architecture, le design est une évocation des anciennes cultures du Moyen-Orient comme Petra en Jordanie, l'Égypte.
And this is the rooftop of the mall in itself. You have 2 hotels and 26 chalets.
Alors là, ce que vous voyez là, c'est le toit du centre commercial lui-même où il y aura 2 hôtels et des chalets aussi, plus d'une vingtaine de chalets.
They are doing the piling right now.
Maintenant, ils sont en train de faire les fondations en ce moment.
C'est immense. Combien d'ouvriers travaillent là-dessus?
Such an huge. A lot of workers.
Énormément.
But this is what you're looking at right now is only a little part of the city. This is only the mall. The city has 34 towers.
Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, là c'est juste le centre commercial qui sera le plus grand du monde, mais la ville, il y aura la ville qui va avec plus de 34 immeubles.
And it has waterways about 11.5 kilometers long throughout the whole city.
Et des canaux qui font plus de 11 kilomètres de long qui traverseront la ville.
Actually have our own internal monorail system, a train system that takes you throughout the whole city.
Et donc il y aura notre propre monorail qui fera le tour de toute la ville.
Oui, on aperçoit le monorail.
Sure.
Et qui va venir habiter là? Mais qui vous attendez ici?
Everyone. I mean, our target market is everyone because you can't just target a small percentage of the market.
Nous, c'est tout le monde. Notre cible marketing, c'est tout le monde parce qu'on peut pas cibler ça sur une petite niche.
And by when are you planning to complete it?
Inshallah, 2008.
Inshallah, ça sera fini en 2008.
Comment vous êtes venu ici au départ?
Parce qu'on nous a dit que vous allez pouvoir épargner, économiser 10 000, 12 000 roupies par mois.
Qu'est-ce que vous avez fait pour venir? Vous avez fait comme les jeunes qui viennent d'arriver de Dakar,
au Bangladesh, qu'on vient de voir là, qui ont vendu tout chez eux, qui ont vendu leurs biens, leurs terres, qui sont endettés, et tout ça parce qu'ils ont été recrutés par des émissaires de la compagnie qui est là, qu'on vient de voir, qui est la compagnie Al-Jabbar, qui envoie des gens là-bas pour recruter. Donc des gens qui sur place se font payer par ces pauvres gens pour leur donner un visa et qui arrivent ici et qui n'ont pas bouffé depuis deux jours, qui attendent là avec leur t-shirt et leur casquette blanche. Et alors, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez fait piéger ?
Dès qu'on arrive, regardez l'état, le lamentable état des Bangladeshi là-bas. Dès qu'on arrive, on comprend.
À quoi ressemble votre chambre ?
Il y a de la place pour 4 personnes, mais ils en mettent 8 par chambre. Nous travaillons toute la journée et puis quand nous retournons le soir, on n'a même pas d'eau pour se laver.
Et vous avez à manger quand même.
Ce qu'on nous donne, même les chiens ne vont pas le manger. Même les chiens
vont refuser.
350, c'est ce qu'on gagne. Même avec les heures supplémentaires, etc. Même si on arrive à gagner encore 200, 300, on paye aussi les intérêts. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui nous reste?
Est-ce que vous arrivez quand même à envoyer de l'argent au pays?
Le driver est au 3e mois, 4e mois. 3,000, 40,000.
Les chauffeurs, tous les 2 mois, 3 mois, ils arrivent à envoyer pas mal d'argent, 20 000, 30 000 roupies. Mais les ouvriers comme nous, même après 6 mois, on arrive à peine à envoyer 10 000 roupies dans les meilleurs des cas.
Ouais, donc pour arriver à envoyer un petit peu d'argent au pays, il faut se priver.
Mouchkola ?
Oui, c'est très difficile, hein. Nous avons des dettes aussi bancaires, etc. parce que nous avons vendu des choses. Donc on passe toute notre vie à rembourser ces dettes.
Avec l'argent que vous envoyez là-bas, tu fais vivre combien de personnes, toi, par exemple ?
12 personnes.
Avec ce que tu envoies là-bas tous les 3 mois, tu fais vivre 12 personnes. Et toi, toi aussi ?
Il y a 8 personnes dans ma famille. Avec beaucoup de difficultés. Oui, nous n'arrivons même pas. Moi, par exemple, je n'arrive même pas à dormir la nuit jusqu'à minuit, 1h du matin, parce que je suis tellement angoissée et inquiète. Comment faire? Est-ce que je pourrais rentrer ou pas?
Vous rêvez de rentrer au pays?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Toi aussi?
Oui, moi je vais partir bientôt. Moi aussi je pars bientôt.
Cette musique peut à la fois illustrer le désarroi de ces deux Pakistanais dans cette voiture arrêtée dans la nuit, dans un coin planqué. Ils parlent et ils nous racontent leur histoire. Mais c'est une musique, écoutez bien, qui peut servir à évoquer aussi le désert, les mystères, la nuit, les parfums, les bédouins. Et nous retrouvons au salon ATM, Arabian Travel Market, un projet de Dubai Land. C'est bien la musique.
À côté.
C'est quoi votre projet?
Dubai Heritage Vision, ça ouvre en septembre.
Ok.
Katrina, mais alors votre projet à vous, c'est beaucoup moins spectaculaire.
C'est l'écotourisme, justement. Pour une fois, on change, on retourne aux sources de Dubaï.
Ah d'accord.
C'est un village bédouin, 100% traditionnel. Et le clou du spectacle, c'est une société française d'ailleurs qui le fait. C'est un show de 75 minutes avec des artistes du Maroc, de Tunisie. On veut une influence arabe 100% de tous les pays arabes dans le monde. Et donc ça va être un spectacle comme ça, un extravaganza comme on dit en anglais, avec la technologie. Donc c'est une combinaison de technologie et tradition. Avec des écrans d'eau qui vont s'élever, les dunes à l'arrière, vous imaginez, vous êtes entouré de dunes sous le ciel étoilé. On a un amphithéâtre ici, 100% arabe aussi, construit avec la pierre, comme dans Gladiator, le film.
Comme et dans le film. Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Oui,
et
oui,
on
oui,
voit
oui.
ce show entouré de dunes, la nuit, et ça sera tous les soirs.
Ça va être un petit peu comme le Puy du Fou, un peu
voilà,
en Vendée.
Bah c'est la même société.
Ah, c'est Philippe de Villiers.
Prisme International, ils ont une société à Lyon. Et ça va être fabuleux, les acrobates, cracheurs de feu, les chameaux. Ça va être aussi un conte des mille et une nuits. Tout en danse, en combat sur scène. C'est très grand. Et puis ici, il y a tout un village bédouin avec une possibilité de dormir dans des tentes. VIP, mais bédouine aussi à 100%. Donc,
VIP et bédouin, quoi.
Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même un peu d'air conditionné parce que bon, c'est chaud.
Oui.
Mais c'est magnifique. Et vous voyez le coucher de soleil avec votre famille ou votre partenaire, vous fumez une chicha, c'est naturel.
Padma, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'on achète? La neige ou le désert? Hein?
Ni l'un ni l'autre. On est obligé maintenant de créer des choses authentiques.
Donc vous êtes, on peut vous dire que vous êtes prisonnier de ce pays.
Même les prisonniers ont une vie meilleure parce qu'au moins ils ont à manger régulièrement. Nous, si on a quelque chose à manger aujourd'hui, pendant deux autres jours, on ne nous donne rien. Et sur le chantier, même si on s'assoit pendant deux minutes, ils nous déduisent ça sur le salaire.
Est-ce que tu es marié?
Oui, je suis marié. J'ai trois enfants. Ils sont tout petits.
Et toi?
Oui, je suis marié aussi.
Mon chota tha abhi shadi kar diya. Aur mara bhai hai che, wo bahut chota chota hai. Kamai ke liye nahi hai. Walad fot ho gaya. To wo abhi hum bank se karza lekar aaya.
Moi, j'ai emprunté beaucoup d'argent à la banque pour venir ici parce que j'ai des frères qui sont très petits, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ça fait 4 ans maintenant et je ne suis pas retournée au Pakistan même une seule fois.
Depuis 4 ans, tu n'es pas retournée au Pakistan?
Je ne suis pas retournée au Pakistan. Je ne suis pas retournée au Pakistan.
J'ai fait une demande de congé, mais ils n'ont pas accepté parce que j'ai encore des dettes envers eux aussi. J'ai des dettes au Pakistan, j'ai des intérêts à payer ici, donc ils ont bloqué ma demande.
Le club de remise en forme d'Assawan réconcilie en beauté le corps et l'esprit.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le petit enclos? Des animaux?
Des animaux, des chèvres, des chameaux. On retrouve le village.
Ah ouais.
Il y aura des gens traditionnels qui habiteront, des bédouins qui habiteront là.
Il y aura des vrais bédouins qui seront là, quoi.
On veut des vrais bédouins. Il n'y aura pas de Russes, pas de Chinois.
Ah, des vrais bédouins authentiques qui seront là.
La qualité et la tradition.
Ah d'accord. Donc c'est des bédouins qui viendront vivre leur vie de bédouin.
Tout à fait.
Parmi les touristes,
parmi les visiteurs. On leur propose de venir habiter ici.
Et il faudrait qu'ils soient en costume de bédouin.
Ah, ils ne changent pas, hein. Ils sont comme ça depuis le début.
Oui, 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 oui. Ils font
leur propre costume. Hein.
Ah oui, ils font leur petit feu de bédouin,
voilà,
leur petite chanson de bédouin, leur petite musique, leur petit chameau. Ils ont des chameaux?
Oui, des chameaux. Et ça, les personnes qui visiteront pourront voir vraiment comment ils sont, échanger un thé, etc. Enfin.
Ah d'accord. Et ils sont d'accord les bédouins pour venir?
Ah, oui, 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 parce qu'ils voient que c'est quelque chose de... Bon, bien sûr, le show, c'est l'élément qui va faire que notre projet soit... qui vaille le coup quand même. Ce sera de vendre le spectacle tous les soirs. Mais pour eux, c'est... Ils retrouvent leur désert. Hein. De toute façon, même pendant la construction, on a eu des bédouins nous visitant.
Mais alors, où est-ce qu'on va mettre les voitures?
Ici. Tout est prévu. Ce sera des palmiers, donc un vrai parking naturel aussi. Avec juste des pierres pour délimiter les places.
Bah, dis donc.
Ouais.
Et alors vous, Katrina, parce qu'on demandait à Abdelaziz, vous, qu'est-ce que vous faites ici à Dubaï?
Bah écoutez, moi je viens de faire un DESS, maintenant master en France, l'année dernière, et je me suis dit, avec mon bagage, Dubaï c'est l'endroit où il faut être. je parle quatre langues couramment, une langue européenne. On a besoin de faire connaître Dubaï dans le monde. Donc ils n'attendent que ça, que des gens de mon profil pour ce genre de projet mondial.
Et comment c'est la vie à Dubaï ?
C'est super.
Ah bon ?
Ah oui. Je suis consciente des décalages qu'il y a avec malheureusement les gens des pays du tiers-monde qui viennent travailler ici. J'en suis consciente, on le voit. Malheureusement, il y a des problèmes à Paris aussi. Hein, les Africains entassés dans des hôtels qui brûlent. Il n'y a pas de solution malheureusement pour l'instant. Mais c'est une vie d'expat, c'est le soleil. Du moment où on reste authentique.
Pakistan, on va aller. Vous faites que chier de garder comme de barres là.
Si jamais je rentre au Pakistan, je vais me suicider, mais je ne reviendrai plus jamais ici. Je ne remettrai plus le pied ici.
Pourquoi tu parles de suicider?
Quand je suis qui bat, qui on capte.
Après, j'en sais tant que ça y va.
Parce que j'en ai marre de la vie.
Oui, mais t'as une femme, t'as des enfants. On ne suicide pas quand on a des enfants. Après, et une femme.
J'ai pris beaucoup de dettes. Mais ma famille vit par ces dettes. Quand je vais rentrer, la personne à qui j'ai emprunté de l'argent, est-ce qu'il va me laisser vivre en paix?
Tu me dis, on a fait une carte de carte, on a fait une carte de carte, on a fait une carte de carte.
Comment je vais faire maintenant? J'ai 5 dirhams dans la poche. Ma carte est bloquée. La carte de travail, le passeport, le visa. J'ai pas de véhicule, personne ne va me déposer nulle part. Il n'y a personne qui va héberger les gens comme nous. Comment est-ce qu'on va faire? Dites-nous. Comment est-ce que je vais faire pour rentrer? Moi, je ne mens pas. Je suis une personne très réglo, très correcte. Dites-moi, comment je vais faire? Et puis, dans le pays, j'ai des dettes. Je n'ai pas assez de ressources, même pour me rendre à l'ambassade. Avec 5 dirhams dans la poche, les gens à l'ambassade ici, ils ne nous écoutent même pas. Tout est une question d'argent. Une personne qui a de l'argent, c'est lui qu'on écoute. Celui qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il va faire?
Est-ce que vous avez essayé de faire des grèves?
Même si on fait la grève, personne n'écoute. Il faut même pas employer ce mot dans Dubaï. Même pas le mot grève. Parce que même si, supposons que nous soyons 100 à faire une grève, le lendemain matin, on est expulsé. Et puis les autres, ils ne m'ont pas osé. Donc les grèves, il ne faut même pas en parler.
Est-ce que vous allez quand même parfois vous promener un peu en ville?
Non.
Non.
Les jours de congé, vous allez vous balader quand même?
Non.
Ça, on va de Diego, casser Diego.
Si on a de l'argent, on peut sortir.
300 de casser de cher Diego, garde de Diego. Jungle, mais t'es pas gloupé.
Non, ok, comment? On gagne très peu. Et même dans ça, il faut qu'on envoie de l'argent à nos familles une fois tous les 6 mois.
Mais ça
on vit dans une jungle. On est presque devenu fou.
C'était Dubaï, Eldorado libéral, un reportage de Guy Vanctil et Daniel Mermet. La suite de cette série, c'est demain dès 15h sur France Inter, à lire Monarchies et sociétés d'Arabie, le temps des confrontations de Fatia Dazieni. C'est aux éditions presse de Sciences Po et ses références sont sur le site de France Inter à la rubrique Émissions. À la technique, aujourd'hui, il y avait Bertrand Durand et Éric Morin. À la mise en onde, Cohen Guyenne et Raphaël Moutard, assisté de Pascal Pascariello. Le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert. Vous pouvez lui soumettre tous vos messages au 01 56 40 37 37.